Objectif Santé, Karen Taïeb.
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le professeur Corinne Isnard-Banis pour son livre « Mission impossible ». Et oui, tout le monde connaît ce fameux film « Mission impossible ». Et le jeu de mots est très sympa. « Mission » parce que c'est quand on va faire pipi. Pour, voilà, c'est le mot trivial, mais en fait, comme tout le monde va faire pipi, hein, c'est aussi bien d'en parler parce qu'on va parler des reins. Ces reins qui sont des organes secrets, discrets, qui font tellement peu parler d'eux, et heureusement, ces petits haricots qui sont cachés sous les côtes. Et d'ailleurs, c'est souvent pour ça qu'on passe à côté de la maladie rénale décrite par l'OMS comme étant la plus négligée en France. Plus de 80 000 personnes sont concernées par la dialyse ou la greffe et ce chiffre est en augmentation chaque année de 2%. C'est dans votre livre « Je n'invente rien ». Merci professeur Corinne Isnard-Banis d'être avec nous.
Merci à vous de m'avoir invité dans votre émission.
Vous n'êtes pas très loin de nos studios puisque vous venez de la toute Salpêtrière.
Tout à fait.
Peut-être... un mot avant de rentrer dans le vif du sujet, parce qu'évidemment, le Covid ou la Covid, voilà, c'est quelque chose qui est aujourd'hui dans notre quotidien. Quand on est néphrologue, ça change quoi dans la vie d'une néphrologue, cette maladie en plus, ce virus?
Ça a changé beaucoup de choses dans les 3 mois de confinement, hein, puisque nous avons particulièrement essayé de prendre soin de nos malades qui sont très fragiles, notamment les patients qui sont traités pour dialyse, les insuffisants rénaux, les patients transplantés.
Ça veut dire qu'on a fait moins de greffes à cause des lits qui manquaient?
Oui, enfin, les transplanteurs ont choisi nationalement d'arrêter le programme de greffe transitoirement pour ne pas exposer les transplantés récents qui reçoivent des médicaments un peu particuliers pour diminuer leur défense à un risque infectieux. C'était pas une question de disponibilité de lits en fait, c'était vraiment un choix pour ne pas
rajouter d'infection à autre chose.
Mais du coup, c'est vrai que pendant quelques mois, on n'a pas pu transplanter, ce qui augmente d'autant les durées d'attente sur la liste d'attente, malheureusement.
Qui sont déjà longues.
Qui sont déjà longues pour certains, très longues. Ouais.
On aura l'occasion peut-être de vous recevoir pour parler plus précisément de cette problématique des greffes. Et là, aujourd'hui, on se dit, comment on fait pipi? Eh oui, c'est une phrase, une question triviale, un peu tabou d'ailleurs, mais qui mérite d'être posée. Moi, j'adore le ton que vous avez dans votre livre, votre plume, qui est très, très dynamique et justement qui nous donne envie de parler de ce sujet, mais de manière très libre.
C'était absolument mon intention, c'est-à-dire qu'avec les années d'expérience de tous ces moments que je passe avec des patients, et je leur demande de plus en plus, en fait, comment ça se passe pour faire pipi, question que j'imagine à peu près personne ne vous a jamais posée, qu'on ne pense pas toujours à demander, mais en fait, les gens n'en parlent pas spontanément de leurs problèmes de pipi. Et donc, justement, il faudrait que ça change, parce que c'est une des façons, parfois, d'identifier des problèmes qui peuvent être pris en charge et traités. Et c'est très important parce que ça peut avoir éventuellement un retentissement sur la fonction vraiment de nos reins. Et puis après, il y a toute la problématique du confort de vie. Faire pipi, ça doit être facile, spontané, ça doit pas être douloureux, etc. etc. Ça doit être... et en général, quand c'est comme ça, justement, on trouve que c'est normal et on s'en occupe pas. Et puis petit à petit, souvent, on s'habitue à ce qu'il y ait des symptômes qui arrivent. Et comme on s'y habitue, on n'en parle pas beaucoup. Et puis peut-être que c'est un peu tabou.
Et on se dit que c'est pas si grave que ça. Et comme, en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, ces reins sont enfouis et qu'on ne les voit pas, ils ne donnent pas signe de vie. En tout cas, ils ne donnent pas signe forcément de maladie tout de suite.
Mais disons que les reins sont vraiment très discrets. Ils font un travail énorme.
Énorme.
Toutes les 30 minutes, ils ont filtré l'ensemble du sang de l'organisme. Ouais. Donc, ils ont un rôle essentiel dans le maintien des conditions dans lesquelles notre organisme peut fonctionner. Ils font en sorte que... ils règlent tous les petits paramètres, la quantité de sucre, de calcium, de magnésium, l'acidité du sang, etc., pour que nos cellules puissent être dans l'environnement idéal pour travailler. Et ce travail énorme nous permet en fait d'être libres de nos mouvements, puisque la particularité de nos vies, c'est d'être exposés à des choses différentes tous les jours. On ne mange pas toujours la même chose, on ne boit pas toujours la même chose. On n'est pas exposé tous les jours à la même température, on fait parfois du sport, etc. Donc toutes ces adaptations-là sont essentielles.
En gros, les reins vous disent « faites votre vie, je m'occupe de tout ».
C'est à peu près ça. Presque. Et sauf qu'ils sont tellement humbles et discrets qu'ils le font sans qu'on s'en rende compte. Alors anatomiquement, il y a une explication quand même, c'est que les reins sont des organes assez petits finalement, mais surtout ils sont cachés, ils sont sous les côtes, en fait ils sont protégés.
C'est pour ça qu'on dit « j'ai mal aux reins » quand on a mal au dos, mais en vérité ça n'a... On a 9 fois sur 10,
il s'agit de douleurs qui sont liées peut-être aux vertèbres, aux muscles, etc., mais pas aux reins. On peut avoir des douleurs dans les reins, mais c'est assez rare.
Quand on a des douleurs dans les reins, ça veut dire qu'on a sans doute des calculs.
Voilà, principalement, je dirais que sans doute la première raison d'avoir des douleurs dans les reins, c'est quand il y a des calculs dans les reins, puisque là, en fait, les reins sont contenus dans une enveloppe qui n'est pas extensible, elle n'est pas élastique. Ouais. Donc, s'ils fabriquent de l'urine et qu'il y a un obstacle à l'émission, à l'évacuation de l'urine, en particulier dans le canal qui est entre le rein et la vessie, on en a deux, donc, de chaque côté, si on a un caillou qui est coincé à cet endroit-là, eh bien, le rein se met en tension à cause de l'accumulation des urines et ça fait super mal.
Parce que l'urine n'arrive pas à être évacuée. Parce que le propre de l'urine, c'est justement d'être évacuée par cette fameuse miction. D'où votre livre, je le montre à l'antenne. Miction a aussi paru aux éditions du Rocher. Mais justement, alors donc en fait, la difficulté de se dire, quand on a ces reins, qui est une petite machine formidable, comme tout le reste du corps d'ailleurs, c'est comme tous les organes vitaux, ils sont d'ailleurs en lien avec tous les autres organes, les reins.
Oui, ils travaillent énormément avec le cœur et ils contribuent à réguler la pression artérielle. Ils ont un impact très important.
La pression artérielle, c'est parce que c'est l'élimination du sel?
Alors, il y a cet élément. Ils ont aussi un rôle hormonal. Donc, ils contribuent à fabriquer dans le rein certaines hormones qui contribuent à l'équilibre de la pression artérielle, comme le système rénine-angiotensine. C'est un peu compliqué, mais c'est un équilibre. Vous savez, dans l'organisme, tout est bien conçu, en fait. C'est merveilleux.
C'est une machine formidable.
Donc, voilà. Donc, tous ces systèmes font l'objet de régulation. Donc, tout est organisé pour qu'on puisse s'adapter. Donc, quand il y a une hormone qui augmente la tension, il y a toujours une hormone qui peut la diminuer et des capteurs pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, les reins participent à la fois à l'idée de donner des ordres sur est-ce qu'il faut garder de l'eau et du sel ou pas, est-ce qu'il faut contracter les vaisseaux ou pas et sécréter des hormones ou pas. Et ils fabriquent certaines hormones. Mm-hmm. Et puis, ils jouent aussi un rôle très important pour le squelette, puisqu'en fait, une des étapes de transformation de la vitamine D dans sa forme active se passe dans les reins. Et donc, c'est une des raisons pour laquelle, quand les reins sont malades, on doit avoir des apports en vitamine D, une alimentation adaptée, etc. Donc, en fait, ils sont en connexion avec tout l'organisme.
Bien sûr, avec le tube digestif, parce que l'alimentation, c'est forcément... c'est la première porte d'entrée.
Oui.
Avant que tout ce qu'on apporte au corps devienne déchet, en fait. Parce que le rein, c'est aussi cette machine pour nettoyer l'organisme.
Oui, alors, c'est bien plus subtil que simplement sortir les poubelles, ce qui est parfaitement utile.
Belle image.
Non, mais je veux dire, j'ai pas de regard péjoratif sur l'idée de se débarrasser des déchets de l'organisme. Mais c'est tellement plus compliqué que ça, parce que ce que font les reins, c'est qu'ils choisissent de quoi on se débarrasse. Mm-hmm. Et donc, c'est ça qui est essentiel.
Parce qu'il y a une partie qui remonte dans le corps.
C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on appelle l'urine primitive est fabriquée par une première partie dans les reins de manière... on va dire peu sélective. Donc, il y a beaucoup d'urine et il y a beaucoup de choses dans les urines. Et dans l'autre partie des reins, qui sont les petits tubes, les tubules, là, c'est là qu'on adapte vraiment très précisément ce qui va être réabsorbé. Et donc, c'est là que le rein joue son rôle vraiment intelligent. C'est-à-dire qu'il capte des informations sur l'organisme et il s'adapte en temps réel. Si vous allez faire un trek dans le désert où il fait très chaud, vous allez uriner beaucoup moins, vos urines vont être beaucoup plus concentrées, le rein va s'adapter immédiatement.
Il y a bien sûr le lien avec le cerveau. C'est d'ailleurs le cerveau qui va dire à quel moment on doit aller faire pipi ou pas, ou se retenir ou pas.
Alors évidemment, le cerveau préside et intervient dans énormément de fonctions, pour ne pas dire toutes les fonctions de l'organisme. Pour ce qui est de la miction, c'est assez compliqué parce qu'en fait, il y a plusieurs niveaux de contrôle. Il y a un niveau central qui nous lance des informations, mais il y a aussi le contrôle des sphincters, il y a le contrôle de l'innervation plus distale. Et en fait, c'est vraiment, il faut un chef d'orchestre pour que tout ça... Finalement, la miction, Faire pipi, c'est quand tout va bien, on a l'impression que c'est d'une simplicité vraiment enfantine, mais en réalité, ça nécessite que tout soit coordonné et que à la fois les ordres donnés par le cerveau, la capacité de la vessie à se contracter au bon moment, au sphincter de s'ouvrir au bon moment. C'est-à-dire que si votre vessie se contracte beaucoup, mais que le sphincter ne s'ouvre pas ou que la prostate est trop grosse, vous n'allez pas pouvoir uriner normalement. Si la vessie, si le sphincter ne se ferme pas comme il faut, vous allez uriner quand vous n'avez pas envie de que ça se produise. Donc en fait, tout ça est une histoire de coordination très complexe, qui est d'ailleurs une spécialité médicale. Enfin, c'est les urologues, beaucoup, qui nous donnent des informations là-dessus, hein, qui en général étudient ces phénomènes. Et puis, ce qu'on appelle les explorations fonctionnelles, c'est-à-dire qu'on est capable de faire des examens très précis pour regarder où ça dysfonctionne quand on ne peut pas faire pipi comme on veut.
D'ailleurs, vous avez dit les urologues, on se dit que ces deux spécialités, néphrologie et urologie, sont très très voisines, elles sont cousines, elles sont peut-être même sœurs jumelles. Comment ça se fait qu'il y a deux spécialités?
Il y a une raison majeure, c'est que nous savons pas manier le bistouri, tandis que nos collègues urologues sont chirurgiens. Donc, ils ont toute cette approche du traitement chirurgical de l'appareil urinaire, mais on s'intéresse aux mêmes organes, en fait. Et donc, on est évidemment amené à travailler constamment en collaboration.
C'est certain. On parle beaucoup de... bien sûr, de tous les âges, parce que c'est un organe qui va évidemment vieillir avec le temps, vous en parlez. Bon, bien sûr, là, il y a la ménopause, mais il y a aussi les personnes, ces messieurs qui vieillissent, question de la prostate, vous en avez dit un mot. Est-ce que c'est un organe qui, quand il vieillit, peut jouer des tours?
Alors, il y a plusieurs sujets. Les reins en eux-mêmes, en réalité, on s'est posé la question pendant assez longtemps. Il y avait toute une théorie qui disait on perd de la fonction rénale en vieillissant.
Ouais.
La fonction des reins s'altère, simplement, c'est lié à l'âge. Bon, sans doute un tout petit peu, mais surtout, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'on perd de la fonction rénale avec l'âge quand on a des maladies qui impactent sur la fonction des reins. Et donc, si on vieillit sans avoir de maladie chronique, ce qui est une chance et ce qui évidemment ne concerne que peu de gens, d'autant qu'aujourd'hui on vieillit beaucoup quand même.
Oui, c'est vrai.
Donc comment arriver à 90 ans sans avoir un peu d'hypertension, parfois un peu de diabète? Le problème évidemment, c'est que si le diabète apparaît entre 50 et 60 ans, comme c'est souvent le cas, eh bien à 90 ans, vous aurez 30 ans d'histoire de diabète.
Ouais.
Et donc à ce moment-là, on aura des conséquences sur la fonction rénale qui seront liées au diabète, sans doute. C'est très probable.
Parce que le diabète entraîne une surfonction, en fait. Peut-être on demande un peu trop aux reins.
Alors, au tout début du diabète, en général, les reins marchent, ils sont sursollicités. Voilà. Mais ce qui se passe, c'est vraiment un processus qui évolue au cours du temps. Et le diabète contribue à ce que les reins se dégradent petit à petit. C'est assez lent. Il y a principalement une atteinte des tout petits vaisseaux dans le rein. Mais le rein, c'est un organe essentiellement constitué de vaisseaux, puisqu'il faut apporter le sang de l'organisme pour qu'il soit traité. C'est pour ça qu'on a tendance, quand on surveille les diabétiques, et on conseille de surveiller le fond de l'œil pour regarder s'il y a ce qu'on appelle une rétinopathie diabétique. C'est-à-dire, est-ce que la rétine, les vaisseaux de la rétine, sont malades du diabète? Parce que, en parallèle, sans doute, s'il y a des lésions, des petits vaisseaux dans les yeux, sans doute que les reins sont aussi un peu malades.
Ouais.
En général, ça n'arrive qu'après au moins une dizaine d'années de diabète.
C'est plus facile d'aller explorer une rétine qu'un rein, en fait.
Oui. Souvent, c'est un argument qui, pour nous, néphrologues, est important. La durée d'évolution du diabète, quand on la connaît, parce que parfois, on ne découvre pas son diabète tout de suite, surtout quand c'est un diabète qui n'est pas un diabète de l'enfance. Et puis, c'est important aussi de savoir s'il y a d'autres conséquences du diabète. Et puis, la dernière chose très importante, c'est d'aller voir dans l'urine, justement, de faire des analyses d'urine et d'aller voir si les reins laissent s'échapper un peu d'albumine. Quand il y a une très petite quantité d'albumine dans les urines, ça s'appelle la microalbuminurie, ça veut dire qu'il y en a très peu. C'est un examen spécial qu'on demande, c'est une analyse d'urine assez banale, mais il faut qu'elle soit prescrite par le médecin. Et ça nous indique que sans doute, il y a quand même un retentissement du diabète sur les vaisseaux, et en particulier les vaisseaux à l'intérieur du rein.
Alors, il y a quelque chose qu'on dit par rapport au diabète, et puisque votre livre s'appelle « Miction impossible », donc on parle de la miction du moment où on fait pipi, on dit souvent qu'aller plusieurs fois dans la nuit, se réveiller la nuit plusieurs fois pour aller uriner, c'est peut-être un signe de diabète.
Alors oui,
vrai ou faux.
C'est vrai, vrai, mais disons que pour que le diabète vous entraîne à vous lever plusieurs fois la nuit et d'ailleurs aussi dans la journée, c'est parce qu'il entraîne une soif, et ça veut dire que la quantité de sucre dans le sang est très importante, et ça entraîne beaucoup plus d'urine. Pour éliminer le sucre, on élimine de l'eau, en fait.
Donc ça veut dire qu'on boit beaucoup plus, en fait.
L'organisme, en fait, a besoin de boire pour pouvoir éliminer le sucre quand il est très élevé dans le sang, et donc du coup, ça nous oblige à uriner souvent. Donc ça veut dire que sans doute, soit il y a un diabète qu'on ne connaissait pas, soit il y a un diabète qui est mal équilibré. Donc dans tous les cas, il faut se rapprocher de son médecin pour voir ce qui se passe.
Alors il y a des signes, bien sûr, qui ne trompent pas aussi quand il y a un problème... de ce côté-là de l'organisme, c'est évidemment les œdèmes.
Oui.
Mais vous décrivez d'ailleurs très vite dans le livre cet œdème, le fameux godet. D'ailleurs, pourquoi avoir mis tout de suite d'emblée dans votre livre ?
Parce que c'est quelque chose qu'on enseigne vraiment tout de suite à tous les étudiants qui viennent dans les services.
Parce que personne
ne sait ce que c'est aussi, c'était ça l'idée. Parce que c'est assez facile de se rendre compte si on a ça ou pas, finalement. Et en fait, les œdèmes, c'est un symptôme qui peut correspondre à plein de choses. Donc les œdèmes, c'est quand les jambes sont gonflées. Et donc, on peut avoir toute une gamme de situations qui peuvent s'associer à des œdèmes, des choses parfois très banales et très simples comme j'ai un tout petit peu d'insuffisance veineuse, il faisait très chaud et j'ai beaucoup marché, donc j'ai les jambes un peu gonflées le soir. Il y a des choses qui sont liées parfois à certains médicaments. Puis il y a des choses pour lesquelles il faut vraiment voir son médecin, parce que ça peut être le cœur qui marche moins bien, et ça peut être les reins, ou ça peut être le foie. Voilà. Donc en fait, soi-même, on peut difficilement faire la part des choses, évidemment. Mais en tout cas, quand il s'agit d'œdèmes qui sont liés à la fuite d'albumine dans les urines, quand il y a beaucoup d'albumine dans les urines, il se passe plusieurs choses que l'on peut remarquer en tant que patient. D'abord, quand on fait pipi, ça mousse.
Ah oui.
Donc ça, quand même, c'est rigolo. Enfin, je veux dire, c'est pas rigolo, mais bon, attention.
Ça doit interpeller.
En tout cas, ça mousse toujours un petit peu. Mais enfin, si vraiment ça mousse beaucoup, c'est comme du blanc d'œuf. Quand vous battez les œufs en neige, en quelque sorte, quand vous faites pipi, vous avez une émulsion de l'albumine qui est présente dans les urines. S'il y a vraiment beaucoup de mousse d'un seul coup dans vos urines, ce qui n'était pas le cas avant, on peut se demander s'il n'y a pas de l'albumine dans les urines.
Et la mousse, elle ne peut pas être due à la forte pression à des jets, je pense.
Oui,
notamment
bien sûr.
Aux hommes.
Oui, les hommes, ça les amuse parfois. Bon, mais je veux dire, oui, bien sûr, mais si vous remarquez une différence importante avec ce qui se passe d'habitude, il y a des gens qui nous le disent, il y a des gens qui viennent nous voir parce qu'ils ont spontanément.
Ça les a étonnés.
Bah oui, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe avant, c'était pas
y compris
ça.
Pour la couleur. La couleur de l'urine, elle peut interpeller aussi.
Oui.
Souvent, on dit que les urines, elles doivent être le plus clair possible. Est-ce que c'est vrai, ça ?
Alors ça, on va régler ce sujet tout de suite, en fait, parce que c'est très simple. C'est pas du tout ridicule de regarder la couleur des urines, puisque vous savez bien que dans toutes les médecines un peu passées, mais sur lesquelles on s'appuie, donc les origines de la médecine occidentale, mais dans d'autres formes de médecine, on a beaucoup regardé les urines. On les a goûtées, même.
L'odeur.
Voilà, l'odeur, la couleur, etc. Donc, évidemment que de regarder la couleur des urines, ça donne des indications. Mais enfin, la première indication que ça donne, ça vous dit surtout si vous avez beaucoup bu ou pas. Parce que si vous buvez beaucoup, vos urines vont être très diluées et elles peuvent être complètement transparentes. Et c'est pas une maladie. En revanche, si vous buvez très peu, ou vous avez fait du sport ou qu'il a fait très chaud, vous pouvez avoir peu d'urine et elles peuvent être très foncées. Après, évidemment, il y a d'autres choses qui peuvent se passer. Ce qui affole le plus les gens en général, c'est quand d'un seul coup, il y a du sang dans les urines. Parce que ça, évidemment, ça fait peur. Ouais. En général, c'est pas grave au sens où c'est pas une perte de sang importante, c'est pas une hémorragie, quoi. On va pas mourir d'hémorragie, c'est exceptionnel. Mais par contre, ça colore beaucoup les urines, donc c'est très inquiétant. Et ça, ça peut être lié à ce qu'on disait tout à l'heure, on a un calcul quelque part, un petit caillou qui irrite la paroi.
Qui a irrité une paroi, oui.
Peut-être il nous a pas fait mal, mais il a quand même fait saigner un petit peu, donc ça peut être une situation. Probablement, le plus fréquent, c'est d'avoir une infection urinaire. Et la plupart du temps, il y a des symptômes. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais il peut ne pas y avoir de symptômes. Et puis après, il ne faut pas négliger le sang dans les urines parce que ça peut être lié à des choses plus embêtantes comme des tumeurs dans l'appareil urinaire, en particulier dans la vessie ou dans la prostate, mais surtout dans la vessie.
Donc de toute façon, quand il y a des choses qui sont anormales par rapport à l'habitude, en fait.
On a le droit de parler.
Pas forcément grave, mais en tout cas, consulter.
Bien sûr, on a le droit de poser la question à son médecin.
D'ailleurs, dans votre livre, vous proposez, vous, de faire un bilan fonctionnel urinaire À quel moment on doit le faire, justement?
Bah, en fait, quand on demande à quelqu'un comment ça se passe pour faire pipi, on découvre plein de trucs. Donc, les gens vous parlent à ce moment-là de leurs symptômes. Et il peut y avoir des symptômes. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, ça concerne plutôt les gens à partir d'un certain âge, on va dire. Hein. Pourquoi? Parce que bah, chez les hommes, souvent, ce qui les gêne pour faire pipi à partir d'un certain âge, c'est que la prostate va devenir plus volumineuse, elle va grossir, et même si c'est rien de grave et que c'est pas un cancer de la prostate, ça peut être très gênant pour faire pipi, ça peut induire tout un tas de symptômes, et à ce moment-là, généralement, on adresse les patients aux urologues, qui eux vont les examiner de manière beaucoup plus spécifique et décider s'il faut faire ou pas des examens. Chez la femme, on est plutôt, on peut être confronté à des difficultés pour uriner après la ménopause ou bien après des opérations. D'abord, quand on a eu des grossesses, aujourd'hui, ça paraît assez banal de faire de la rééducation du périnée. Ouais. Toutes les jeunes femmes d'aujourd'hui, on leur, pratiquement toutes, je pense qu'on leur propose de faire de la rééducation. C'est très important, mais les femmes qui ont aujourd'hui 70-80 ans, elles n'ont pas du tout fait ça. Mmh.
Et, donc, ça a des conséquences
bah donc,
pour la suite
on perd de la musculation. La vessie peut devenir, peut se contracter moins bien parce qu'elle est moins bien placée dans le bassin. C'est un petit peu comme le reste du corps. Hein. On a remusclé cette partie du corps pour que la participation musculaire à la miction soit efficace. Et donc, quand on veut vraiment creuser le sujet, eh bien, comme je disais tout à l'heure, on peut recourir à des examens. Il y a un certain nombre d'examens qui nous permettent de savoir exactement comment ça marche. La vessie, comment la vessie se vide et où est le dysfonctionnement.
Et oui, on parle des reins, on parle de comment faire pipi, des organes qui sont cachés sous nos côtes et pourtant qui font parler d'eux, en tout cas aujourd'hui, dans Objectif Santé. Et je suis en compagnie du professeur Corinne Isnarbanis pour son livre qui vient de paraître tout juste aux éditions du Rocher, « Miction impossible ». On se retrouve dans un tout petit instant.
J'avais pas prévu d'un jour adopter mon enfant, j'ai dû surtout m'adapter. Y a pas que les gènes qui font les familles, des humains qui s'aiment suffisent. Et si l'inverse nous touche toi et moi, on la traverse à deux, à trois. Et si l'inverse nous touche toi et moi, prends ma main de beau papa. Je t'attendais pas, je te laisserai pas. Même sans le même sang, on s'aimera. Non, je ne volerai jamais la place du premier qui t'a dit je t'aime. Sur ton visage, on voit son visage et c'est ainsi que tu es belle. De vous à moi, c'est moi j'avoue qui me suis invité dans sa villa, dans la vie où elle n'a rien demandé. Et si l'inverse nous touche toi et moi, on la traverse à deux, à trois. Et si l'inverse nous touche toi et moi, prends ma main de beau papa. Adopté, en vérité nue, c'est toi qui l'as fait. Y a pas que les gènes qui font les familles du moment qu'on s'aime. Et si l'inverse nous touche toi et moi, on la traverse à deux, à trois. Et si l'inverse nous touche toi et moi, prends ma main, dis branle-la.
retour dans Objectif Santé, on parle de l'urine, des reins. Voilà, professeur Corinne Isnard-Banis, vous êtes néphrologue à la Pitié-Salpêtrière et merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de nos reins. Et vous avez raison, prenez soin de vos reins, ils vous le rendront bien. Un livre paru aux éditions du Rocher avec ce titre, voilà, un peu clin d'œil, Miction impossible. En tout cas, on espère qu'elle est possible, le plus longtemps possible, parce que sinon, on n'est pas bien, on va dire.
Exactement.
Moi, j'aime bien le quiz que vous proposez dans votre livre qui concerne les adultes. Alors, par exemple, des questions, enfin, des trucs à cocher. Hein. J'ai mal quand je fais pipi, faire pipi, c'est compliqué, il faut pousser. J'ai encore envie d'uriner quand j'ai fini. Quand je tousse, ça coule. Le jet d'urine est tout maigre, j'ai envie d'y aller toutes les deux minutes, quand j'urine, il y a un retard au démarrage, c'est comme un diesel, je fais pipi en deux temps. Il y a plein de gens qui vont se reconnaître, en fait.
Sans doute. Mais donc voilà, tout ça, il faut en parler.
Ça veut
parfois,
dire que c'est...
Mais parfois c'est pas grand chose, voilà. Et pris isolément, d'abord ça peut être transitoire, l'idée c'est pas du tout d'inquiéter, hein. Mais je trouve que les gens s'intéressent pas forcément suffisamment à leur confort urinaire, premièrement. Et des fois, je vois des gens, en particulier d'un certain âge, qui ne sortent plus, ne vont pas au cinéma, ouais. Parce que vous comprenez, il faut que j'aille faire pipi. Ouais.
Et puis, il y a ceux qui vont faire pipi avant, et vous dites dans votre livre, mais ça ne sert à rien.
Mais c'est pas ça, c'est qu'il y a des études qui montrent que ça désorganise un petit peu le chef d'orchestre qui règle notre capacité à faire pipi.
Un peu comme faut manger quand on a faim.
Oui, c'est
vous en parlez d'ailleurs dans votre livre.
C'est un peu ça. Ouais.
Il faut y aller quand on en a vraiment envie.
C'est-à-dire que
ça peut être tard, hein, parce que si on ne trouve pas le.
Oui, alors l'idée, c'est qu'il y a tout un système qui est bien organisé pour déclencher l'envie d'uriner. Mm-hmm. Et donc, on doit y répondre, évidemment. Ça, c'est on peut ou on peut pas, suivant les conditions, mais autant que possible, c'est le moment d'aller uriner. Et cette idée qui consiste à aller faire pipi quand on n'a pas envie, en se disant qu'on fera pas pipi plus tard, d'abord, des fois, ça sert pas à grand chose. Et deuxièmement, il y a des études qui montrent que c'est pas forcément très bien pour le maintien de la coordination optimale de cette fonction.
D'ailleurs, vous dites la fonction. Première, on pourrait dire, des reins, c'est cette homéostasie.
Oui, c'est un mot compliqué.
C'est le grand mot.
Oui.
Mais c'est finalement, et vous le décrivez très bien dans votre livre, vous dites c'est un peu comme le chauffage qui se déclenche quand il fait froid dehors.
Bah oui,
magique en fait.
Bah oui, c'est assez fabuleux quand on y réfléchit. C'est-à-dire que quand vous allez faire du sport, si vous augmentez vos boissons, vous vous hydratez, c'est très bien. C'est d'ailleurs probablement ce qu'il faut faire. Hein. Mais si jamais par hasard vous avez oublié votre bouteille ou que vous ne buvez pas après avoir fait un effort physique et avoir fait de l'activité physique, les reins vont se débrouiller pour compenser. Donc en fait, le rein, il surveille tout et il adapte. Il n'est pas le seul organe à le faire, bien entendu. C'est en conjonction avec d'autres organes, mais c'est un des éléments clés. Donc en fait, c'est un organe de liberté. C'est grâce au rein qu'on peut ne pas manger pour faire autre chose ou ne pas boire parce qu'on n'a pas le temps. C'est grâce à nos reins qu'on peut faire tout ça.
C'est lui qui, en fait, règle un petit peu tout pour que les choses aillent le mieux possible. Et en tout cas, comme on le dit, parce que c'est vraiment une source de calcium, de potassium, de sel. En fait, tout ça, il faut que cette machine soit bien orchestrée. Et c'est les reins
multiples réglages en permanence. Mm-hmm. Parce qu'une chose est essentielle pour les cellules de l'organisme, quelles qu'elles soient, c'est qu'elles ne sont pas capables de fonctionner normalement si elles ne sont pas dans un environnement stable, avec des paramètres très contrôlés. Donc, le rein contribue à ça.
On n'a pas parlé de l'infection urinaire. On a parlé, bien sûr, des lithiases et des cailloux, des petits cailloux peut trouver dans les reins, des calculs rénaux. L'infection urinaire, la fameuse cystite, qui empoisonne la vie de beaucoup de gens, notamment des femmes. Hein. C'est plutôt une maladie un peu féminine.
Oui.
Et vous dites qu'on pourrait l'éviter.
On pourrait diminuer considérablement le nombre d'épisodes, hein, qui sont très très nombreux et qui donnent, qui sont une source d'arrêt de travail. Hein. Quand vous avez une cystite et que vous faites pipi toutes les deux minutes des lames de rasoir, franchement, vous ne pouvez pas faire grand-chose de votre journée. Donc, ça a un impact sur la vie.
Je dis pour les gens, les lames de rasoir, c'est
quand ça brûle énormément.
Ça fait tellement mal que ça ressemble à des lames de rasoir.
Et évidemment, c'est une image, ça peut être tellement douloureux qu'on est un peu tétanisé, quoi. On peut pas faire grand chose d'autre. Et donc, ça a un impact très important sur la vie sociale, professionnelle, la vie évidemment personnelle, le confort des femmes. Pourquoi les femmes sont plus concernées? Parce que anatomiquement, on s'infecte avec les bactéries qui sont sur notre périnée, qui sont donc sur notre propre corps. Hein. Donc ça, peut-être, c'est important déjà de comprendre que on n'a pas une infection urinaire parce qu'on s'est assis sur des toilettes pas propres ou parce qu'on a eu des relations sexuelles. Hein. C'est... Les relations sexuelles, on peut y revenir après, ça peut favoriser l'infection, mais ce sont nos bactéries qui vont là où elles ne devraient pas aller et qui remontent par un petit canal tout petit chez la femme, trop court chez la femme, ou du moins assez court chez la femme, qui va de l'extérieur du corps à la vessie. Et donc, plus cette région du périnée est irritée, et donc tous les facteurs d'irritation peuvent contribuer à ça, plus les bactéries vont facilement remonter et donner une infection.
Est-ce que c'est aussi le fait que ce soit très proche de la région anale
Bien
aussi
sûr, bah les bactéries viennent du tube digestif, elles sont dans la région anale. Et donc en fait, c'est normal d'avoir des bactéries sur la peau, au niveau du périnée. Il ne faut pas trop décaper, désinfecter tout ça, il faut se laver normalement avec du savon, mais il ne faut pas désinfecter cette partie du corps. Puisque dans toutes les bactéries du tube digestif, il y en a qui sont gentilles, qui ne donneront pas d'infection urinaire et qui vont coloniser la peau.
Et qui sont utiles.
Et il faut les laisser là où elles sont, parce que si on les détruit, ça peut être des bactéries beaucoup plus méchantes qui vont finalement donner lieu à des infections urinaires.
Vous dites aussi que ne pas aller uriner parce qu'on est occupé et ça, on peut mettre à plus tard, à plus tard, à plus tard. Ça aussi, ça peut occasionner des infections urinaires.
Très important, parce que la meilleure façon que le corps a trouvé finalement de se débarrasser des germes qui peuvent remonter dans ce petit canal de l'urètre et aller dans la vessie, dans les urines chez la femme, c'est encore une image de tirer la chasse. C'est-à-dire que vous avez des urines dans votre vessie, c'est un flacon, un contenant, il faut vider ce contenant. Et donc à chaque fois qu'on va uriner, on vide les urines à l'intérieur de la vessie, on nettoie au passage l'urètre, et tout ça est éliminé. Et donc c'est une manière très efficace, et d'ailleurs probablement l'une des plus efficaces, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de stagnation d'urine dans la vessie.
Qui peuvent remonter d'ailleurs dans les reins. Et les bactéries, en fait, elles
complètement. La complication d'une cystite qui est une infection de la vessie, une infection des urines de la vessie, ce serait d'infecter les reins. Et à ce moment-là, le signe majeur, c'est qu'on a de la fièvre.
Ah, donc si on a un signe reconnaissable.
Ah bah oui, ça c'est très important. Si on a une infection urinaire, on est habitué, on fait des cystites, mais qu'on a de la fièvre et mal dans le dos, là il faut vraiment aller voir un docteur parce qu'on a une infection plus sévère.
D'ailleurs, pour la cystite, on la soigne comment une fois qu'elle arrive? Parce que beaucoup d'antibiotiques sont donnés. En général, certaines personnes savent reconnaître ce signe et d'emblée se font de l'automédication en prenant ce fameux antibiotique.
Il y a plusieurs problèmes dans ce que vous soulignez. Il y a un problème de société qui est qu'on a des antibiotiques qui sont de moins en moins efficaces. Donc, il faut absolument faire attention à bien les utiliser. Dans les cystites, chez des gens qui n'ont pas de maladie particulière, des femmes qui sont avant la ménopause, qui ne sont pas enceintes, qui sont entre le début de l'âge adulte et la ménopause et qui font une cystite banale, qui reconnaissent leurs symptômes, il n'est pas complètement délirant d'attendre un petit peu pour voir si ça passe en buvant beaucoup et en lavant la vessie. Il y a des études tout à fait sérieuses qui montrent...
Boire beaucoup, ça permet...
Voilà. Il y a des études tout à fait sérieuses qui montrent que presque une fois sur deux, on pourrait, en buvant beaucoup, juguler l'infection et le corps pourrait se débrouiller tout seul.
Quelle eau boire d'ailleurs? Quelle eau boire? Parce que vous le dites rapidement, parce qu'on va vers la fin de l'émission.
Pour ça, honnêtement, ce que vous voulez.
D'accord.
Là où c'est un autre sujet, c'est quand on a des calculs, là on peut avoir à discuter de la qualité de l'eau qu'on boit. Mais là, honnêtement, n'importe quoi.
Y compris
tout ce
quand
qui vous
on
n'en
a pas sur le moment, mais qu'on a tendance à en fabriquer. Est-ce qu'on doit choisir son eau?
Pour les calculs?
Oui.
Alors, les calculs, c'est tout un sujet dont on ne va pas avoir le temps de parler en détail, calculs, c'est un monde à part.
Ouais.
Quand on a un calcul dans les reins, il faut absolument trouver un docteur qui va vous dire pourquoi vous avez un calcul dans les reins.
Donc, ce qu'il faut faire
et ne pas
faire.
Parce que sinon, ça va recommencer.
Ouais.
Et c'est un impact majeur sur la façon dont vous allez boire et manger. Parce que souvent, il y a des choses à changer dans vos comportements alimentaires.
Bien sûr, vous le dites.
Pas que ça. Mais c'est compliqué.
Moins de protéines,
voilà. Donc, il y a des choses qui marchent un peu chez tout le monde.
Mm-hmm.
Donc, c'est d'essayer de manger pas trop de protéines, pas trop de sel. Et surtout, de boire. Hein.
Ouais.
Mais là, il faut boire pour diluer les urines constamment. Donc, en fait, quand on a des calculs, c'est un sujet un peu différent. Il faudrait idéalement boire régulièrement, toutes les heures, dans la journée, mais y compris se lever la nuit pour faire pipi, et puis boire la nuit, parce que c'est la nuit que les urines se concentrent, puisqu'on ne se lève pas pour vider la vessie, et c'est la nuit, à ce moment-là, qu'on a des chances de fabriquer, de contribuer à la fabrication du calcul. Donc là, c'est vraiment un sujet pour lequel on peut être organisé, comme dans notre service, pour accompagner les patients, et vraiment les former, là, c'est presque du coaching, pour changer leurs habitudes. Mais pour la cystite, en fait, on peut essayer de boire beaucoup,
Au moins, les 12 premières heures ou les 24 premières heures.
Le seul problème, c'est que ça fait mal.
Ouais.
Et que quand vous dites à une femme qui a une cystite, elle va voir le médecin si elle peut, mais si elle peut le voir tout de suite, sinon elle va voir même le pharmacien. Elle va dire, mais j'en peux plus là, ça brûle, ça fait mal, donnez-moi quelque chose. Le problème, c'est qu'on n'a pas de médicament qui calme la douleur de la cystite. Donc évidemment, on a tendance à donner peut-être parfois trop d'antibiotiques. Mais en tout cas, les antibiotiques, ça marche sur l'infection et ça marche sur la douleur.
C'est passé très très vite avec vous, cher professeur Corinne Isnarbanis. Votre livre, je vais le rappeler dans un instant, mais j'ai envie de parler en une minute de quelque chose que dont vous parlez dans votre livre et qui prouve que les urines, ça ne sert pas à rien. C'est 95% d'eau, c'est de l'azote, c'est beaucoup d'engrais, il y a du phosphore, il y a du potassium. On l'utilise de plus en plus parce qu'on le mélange au compost, on peut on peut faire pousser des choses avec.
C'est très utilisé dans plein de pays.
C'est finalement, même ce qu'on considère nous comme déchets, il y a des choses importantes
dedans. Et je crois que si j'ai voulu raconter tous ces usages intéressants de l'urine dans le livre, c'est aussi pour qu'on change notre regard sur ce fluide doré qui a quand même beaucoup d'intérêt en dehors de nous garder en vie et en bonne santé.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Voici votre livre, professeur Corinne Isnarbanis, un livre paru aux éditions du Rocher, Miction Impossible.
Merci infiniment.
Merci à vous de nous avoir écoutés. Une très bonne santé à tous.